Le psaume 139,16 nous dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Alléluia. Moi, ce qui m'importe lorsque je me lève le matin, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu a prévu que je fasse avant même que je sois né dans cette journée, qu'est-ce qu'il a prévu que j'en fasse. Parce que vous savez, c'est pas parce qu'on a une destinée prévue par Dieu qu'on va automatiquement rentrer dans cette destinée. Parce que si le Seigneur a une destinée pour nous, le diable en a également une. Elle n'a rien à voir avec la destinée que Dieu a pour nous. Le diable, la destinée qu'il a prévue pour nous, c'est la destruction de nos rêves, c'est la destruction de notre famille, si nous avons une famille, c'est la destruction de notre église, si nous avons une église, de notre ministère, si nous avons un ministère. Ça, c'est la destinée qu'il a pour chacun de nous. C'est pourquoi notre destinée ne se met pas en place naturellement et qu'il nous faut lutter pour pouvoir rentrer et réussir notre destinée. C'est pourquoi Jésus a dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et dans une église, il faut avoir des violents, pas des gens qui tapent sur les autres, mais des gens qui sont violents. Alléluia, il ne faut pas leur répéter 50 fois les choses pour qu'ils les fassent. Parce qu'ils sont violents, ce qu'ils cherchent, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Si Jésus nous dit de prier en ces termes, « Père, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel », c'est que la volonté de Dieu peut être empêchée de se faire. Parfois, on a été habitué à certains raisonnements très évangéliques. Si les choses se font, c'est la volonté de Dieu. Si elles ne se font pas, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, moi je regarde autour de moi, les 80% des choses que je vois dans ce monde, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes dans ce monde. C'est pour l'envahir, nous sommes les envahisseurs. Nous sommes là pour changer le cours des choses. Amen. Vous voyez que c'est la volonté de Dieu, le cancer, les divorces, les guerres. Donc nous sommes dans un monde où, là aussi, il faut peut-être faire tomber certaines conceptions évangéliques, où Dieu ne règne pas. Nous chantons « Il tient le monde dans ses mains », mais moi j'ai pas l'impression pour l'instant qu'il tient vraiment le monde dans ses mains. La Bible nous dit que le jour où Dieu règnera, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute sa montagne sainte, si bien qu'un enfant pourra mettre sa main dans l'antre de la vipère, il risquera rien. L'agneau pourra paître avec le lion. Essayez maintenant de mettre un lion avec un agneau, vous allez voir ce que ça va donner. Donc nous ne sommes pas dans un monde où Dieu règne, la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. Mais que Dieu a engendré en Jésus-Christ des fils et des filles, amen, pour faire avancer son royaume et pour amener son royaume là où le royaume de Satan règne par la maladie, par la division, par les guerres, par les vols, par les viols. Parfois on dit, si Dieu le permet, c'est sa volonté. Vous savez, Dieu permet les viols, il permet les vols, il permet les crimes. Ce sont des choses qu'il condamne dans sa parole. Donc Dieu nous demande de prier, de nous lever dans notre destinée, pour que sa volonté puisse se faire. Combien il nous fait confiance? Moi, ça m'épate combien Dieu me fait confiance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus à l'Église, je le disais tout à l'heure aujourd'hui, mais Jésus, il y croit toujours. Parce qu'il sait que lorsque des hommes et des femmes de bonne volonté arrivent à s'assembler dans l'unité et dans la paix de l'esprit, ils arrivent à louer ensemble et travailler ensemble, malgré leurs différences. Malgré ne pas être d'accord parfois, parce qu'on peut avoir des différences sans devenir désagréable, hein. Eh bien, on libère une puissance qui fait que toutes choses sont possibles. Vous connaissez ce verset des psaumes, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il nous est dit que lorsqu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, Dieu envoie une onction particulière, c'est-à-dire une onction supérieure à celle que nous avons chacun en tant qu'individu, parce que nous devons tous reconnaître qu'il y a des domaines dans notre vie, nous avons prié, nous avons jeûné, ça s'est jamais décoincé. Parce que Dieu a prévu qu'on arrive à vaincre ces choses-là ensemble, par une onction supérieure. Donc nous sommes obligés de travailler avec d'autres, nous sommes obligés de travailler en équipe, parce qu'aucun de nous n'a reçu assez d'onction pour voir tous les jugs être brisés sur son chemin. Amen. Il est dit, c'est là où des frères, là nous sommes assemblés pendant ce week-end, c'est pourquoi nous croyons qu'à travers ces séminaires, il peut se passer des choses qui ne se passent pas dans la vie de tous les jours. Lorsque nous sommes assemblés, Dieu dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction. Et regardez ce que dit le texte, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parfois, il est tout sauf agréable de demeurer avec certains chrétiens. Soyons honnêtes. Dans le texte, ça signifie que lorsque nous créons Lorsque nous avons assez de bonne volonté, assez d'humilité, disons-le aussi, pour créer un contexte qui fait qu'il est doux et agréable de demeurer ensemble, là nous pouvons être assurés que Dieu envoie une onction particulière qui va faire exploser tous les jougs. Alléluia! C'est pour ça que je crois en l'Église. Je ne crois pas en toute l'Église, mais je crois en une partie de l'Église qui va se lever dans ces temps pour apprendre à fonctionner ensemble afin de faire exploser tous les jougs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que moi qui le croient ici? Voilà, rassurez-moi. Je mène toujours Michael avec nous parce qu'il est toujours là pour m'encourager. Non, c'était une blague, alléluia. C'est un prédicateur, il apportera la parole demain. Et c'est un homme d'expérience qui peut beaucoup nous apporter. Donc nous sommes appelés, chacun de nous, à trouver tout au long de notre vie la place que Dieu veut que nous occupions. Pour les raisons suivantes, déjà pour lui obéir, bien sûr, pour obéir à notre appel encore, et c'est aussi parce que c'est à cette place que nous sommes pleinement efficaces. Vous n'avez pas le sentiment parfois de ne pas être utilisé à plein rendement. Combien c'est frustrant! L'onction qui m'est propre, elle est supposée se libérer par rapport à l'appel auquel elle correspond. Et je n'ai pas essayé d'être un autre, et le plus grand mal qu'on puisse faire à une personne lorsqu'on est... pasteur, c'est d'essayer de le faire devenir nous. Les gens qu'on veut former, il faut les apprendre à devenir eux, surtout pas qu'ils deviennent nous. Parce que l'unicité est un facteur d'onction et Dieu n'aime pas les photocopies. Moi, j'invite que les originaux. Amen. Quand j'invite quelqu'un, quand je vois que quelqu'un refait un autre, ah, il prophétise comme un autre, il prêche comme un autre, ça ne m'intéresse pas. Je veux le vrai truc. Parce que Dieu n'aime pas les photocopies. L'unicité est un facteur d'onction. D'où l'importance de comprendre qui Dieu est en nous, mais qui nous sommes en lui aussi. De bien comprendre notre identité. Parce que tant que nous ne sommes pas affermis dans notre identité, eh bien souvent on essaye d'être quelqu'un d'autre. Il y a des règles spirituelles pour réussir dans notre destinée. Une de ces règles, c'est le respect des sphères d'autorité. Lorsqu'on ne comprend pas que chacun de nous, nous avons une sphère d'autorité qui démarre quelque part, qui finit quelque part, en général, on va toujours atterrir dans la sphère d'autorité de quelqu'un d'autre. Dans le couple, la femme a une sphère d'autorité, le mari a une sphère d'autorité, et les enfants aussi, tous soumis qui doivent être à leurs parents, ils ont une sphère d'autorité parce que la Bible nous dit de ne pas irriter nos enfants. Ah! Vous connaissez cette sensation de semer avec peine pour récolter très peu et d'une manière disproportionnée à vos efforts. Ça rappelle ce qu'il est dit dans Agé 1.9, vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Vous attendez une grosse bénédiction et il arrive une grosse facture dans la boîte aux lettres. Est-ce qu'il y a des connaisseurs ici? Alors que Dieu veut nous bénir d'une manière disproportionnée dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il veut qu'on reçoive bien plus que ce qui était prévu au départ. C'est ce que dit Éphésiens, j'aime beaucoup ce verset, 3:20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pensons et demandons. Alléluia! Vous attendez 1000 euros, il arrive 2000 euros! Waouh! Vous priez pour qu'une personne soit guérie, il y en a 10 qui sont guéris pour qui vous n'avez pas prié dans la salle. Enfin, je ne sais pas ce que vous vivez aussi à Reims, mais... Nous, quand on prie pour une personne qu'elle est guérie, pendant ce temps, il y en a 10 qui tombent malades. C'est pour ça qu'à travers ces séminaires, on n'est pas là pour donner des leçons, on n'est pas là pour casser du pasteur, on n'est pas là... Amen. On est là pour chercher la face de Dieu ensemble et apporter un message qui est sur notre cœur. Parce qu'on reconnaît nos manquements, on reconnaît notre besoin de plus. Alors l'efficacité de notre foi sur le chemin de notre destinée, l'efficacité de l'onction... dépend de ce facteur si important, qui est de trouver sa place dans le plan de Dieu. Si l'efficacité dépend du fait de trouver sa place dépend de trois facteurs incontournables, indissociables, la nature de l'appel que Dieu m'adresse, le lieu où je dois exercer cet appel, et puis le temps aussi. Alors on va commencer par la nature de l'appel. Trouver sa place, c'est trouver en quoi consiste ce que Dieu nous appelle à faire, donc en quoi consiste notre travail, ou on peut employer le mot, aux hommes, ministère. Amen. Dieu a appelé 5 ministères précis qu'il a donné à l'Église pour l'édification de son corps, mais ça ne veut pas dire que les autres personnes n'ont pas reçu un appel ou un ministère. D'ailleurs, je dirais que s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont reçu d'autres ministères que ces 5 qui ne peuvent pas fonctionner. Donc nous avons tous besoin les uns des autres. Alléluia. Et chacun de découvrir quelle est notre place. Peut-être en deuxième, quatrième, cinquième position, mais c'est important celui qui est en cinquième position. C'est aussi important celui qui est en première position. Simplement, c'est une place différente. Vous savez, la même personne qui sera la plus douée pour faire une chose à laquelle elle est appelée sera la plus nulle à s'efforcer d'en faire une autre à laquelle elle n'est pas appelée. Amen. Il est dit dans Éphésiens 4, 7, qu'à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Lorsque Dieu nous appelle, il nous donne la grâce qui va avec. Alléluia. Le nombre de choses que j'ai pu faire en tant que pasteur, parce que la pression extérieure demandait à ce que je les fasse, et au fond de moi, je vivais tout le contraire. Pendant des années même, j'ai eu l'aspect du pasteur classique, alléluia, parce que c'est ce qu'on attendait de moi. Un jour, j'ai jeté tout ça à la poubelle, amen. Et je me suis dit, tu seras unique. Ça plaira à certains, ça déplaira à d'autres, c'est pas le problème. L'essentiel, c'est que quand tu te regardes dans la glace, hein, tu t'es pas créé un personnage, t'es toi-même, alléluia. Et chacun de nous, on est appelé à être soi-même. Et je ne suis pas là pour engendrer des personnes qui vont porter des queues de cheval maintenant. À certains d'entre vous, ça vous irait très mal. Ça vous va mieux ça, alléluia. Et moi, ça ne m'irait pas, mais c'est très bien. Ah, moi, j'aime bien la diversité. Parce que je regarde le Dieu qui a créé la nature autour de moi. Il n'a pas créé en noir et blanc, hein, il n'a pas créé que des arbres ou que des buissons. Il a créé rempli de diversité, rempli de couleurs, rempli de formes différentes. Et parfois, vous rentrez dans l'église, ils se ressemblent tous. Vous avez vu comme les témoins de Jéhovah, ils arrivent avec leur petite sacoche, vous en voyez un, vous les voyez tous, ou les mormons, avec leur chemise blanche. Ça, c'est une œuvre de dépersonnalisation qui est tout à fait démoniaque. Dieu aime la diversité, alléluia. Le Dieu qui a créé la nature, il ne faut pas s'étonner en rentrant dans une église qu'on voit des gens avec des couleurs différentes. Amen. Des goûts différents. La différence n'est pas une tare. C'est une qualité et c'est un droit qu'on doit exiger et qu'on ne doit pas accepter qu'on nous vole. Alléluia. La grâce de Dieu nous est donnée en fonction du don qui est en nous. Par exemple, si quelqu'un est appelé à faire de l'accueil d'ex-marginaux, il aura une grâce pour supporter ce que quelqu'un d'autre n'arrivera pas à supporter. C'est bien de répondre à un besoin, mais si je ne suis pas appelé, un besoin n'est pas obligatoirement un appel, même si chaque appel répond à un besoin. Est-ce que vous me suivez? Si je réponds à un besoin et que je n'ai pas la grâce pour y répondre, ce besoin va me tuer. Et d'ailleurs, ce qui est bon pour un, c'est ce qui va tuer l'autre. Amen. Vous avez peut-être reçu un plan de Dieu pour la manière dont vous allez diriger votre église ici, pour les locaux que vous avez. Si j'essaye de faire la même chose, ce qui marche pour vous va détruire mon église. Et vice-versa. L'équilibre de mon couple, ça sera peut-être la mort du vôtre si vous essayez de nous copier. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut qu'on se mette devant sa face pour comprendre chacun ce qu'il nous appelle, nous, à faire. En tant qu'individu. C'est ce qui se passe souvent. Nous nous lançons dans quelque chose face aux besoins. Nous nous disons que quelqu'un doit le faire, face aux pressions souvent. Et on se retrouve sans la grâce qui donne la force, les capacités, le courage, l'onction pour avoir des résultats. Et c'est l'échec. Parce que les bonnes intentions ne suffisent pas. Essayez de rester célibataire sans la grâce. Sexuelle et affective. C'est aller à la catastrophe. Dans 1 Corinthiens 7, 7, Paul déclare à ce sujet, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » Et oui, on aimerait tous parfois que les gens ils soient comme nous, ok? Qui s'habillent comme nous, qui louent comme nous, qui chantent les mêmes chants que nous, qui aient le même style d'église que nous. C'était le premier réflexe de Paul aussi, mais il ajoute, « Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Savez-vous ce que dit la Bible? Proverbe 18, 16. lorsque tu es à la bonne place dans ton don, hein, elle nous dit que les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Si vous avez vraiment reçu un don, ce qui veut dire que vous êtes dans la bonne onction, ce don va vous frayer un chemin. Parce que l'onction va briser les jugs qui voudraient vous empêcher d'avancer déjà, et les jugs dans la vie des gens qui bénéficient de votre ministère. Vous n'avez pas à imposer votre don aux autres, courir dans la rue pour essayer de convaincre les gens que vous êtes le prophète de 2007. Votre don devrait bénir assez de personnes pour qu'elles vous ouvrent les portes dans le but que beaucoup d'autres soient bénéficiaires de ce don. Est-ce que vous me suivez? Si vous avez reçu un don de prophétie et que chaque fois que vous prophétisez, les gens ont besoin de 15 jours pour se remettre, peut-être qu'il faut reanalyser votre don. Ou vous faites du cinéma, ou bien il n'est pas parvenu à maturité, il vaut mieux attendre pour pouvoir bien l'utiliser. Est-ce que vous me suivez? Jésus a donné des dons aux hommes, et il a aussi donné des hommes en dons. Il les a donnés à son église pour l'avancement et la maturité de celle-ci. Nous sommes un cadeau pour le monde, je l'ai dit tout à l'heure, et pour le corps de Christ. C'est vrai que celui qui occupe une place qui n'est pas la sienne, il va à la longue devenir un poids là où il devait décharger les autres. Il va augmenter les jugs là où il devait les briser. C'est pourquoi on peut aller écouter un prédicateur, on ne comprend pas pourquoi on est plus chargé après qu'avant. Il y a beaucoup de gens qui occupent une mauvaise place. Donc trouver sa place n'est pas une option, c'est un ordre du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 7, 17, « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. » Et l'apôtre Paul ajoute de la part du Saint-Esprit, « C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. » Alléluia. Je veux savoir pourquoi je suis sur cette terre. Je veux m'assurer que j'ai marié la bonne personne. Quand je me lève le matin, alléluia, je la vois dans le lit et je dis, « C'est la bonne, alléluia. » C'est important d'avoir des convictions. Alléluia. Alors, s'il est important de comprendre quel est le travail que Dieu nous appelle à faire, il est important de comprendre quel est le lieu où Dieu nous appelle à exercer ce travail. Paul, il avait été envoyé vers les gentils et Pierre vers les méchants. Non, vers les juifs. Donc, voilà la même catégorie d'appel, apôtres, mais qui était destiné, selon chacun, à s'exprimer dans un contexte et un lieu différent. Dans Galates 2.8, Paul dit, « Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. » Donc Pierre et Paul n'ont pas pensé, nous sommes apôtres tous les deux, donc ce ministère va marcher n'importe où, ou pour chacun de nous, même on peut changer de temps en temps. Parce que pour l'un, le ministère d'apôtre était indissociable du fait d'aller vers les païens, alors que pour l'autre, c'était indissociable d'aller vers les juifs. Donc je dois comprendre quel est l'appel qui est sur ma vie, mais aussi là où je dois l'exercer. C'est pourquoi parfois, certains hommes de Dieu n'ont aucun résultat là où ils se trouvent, ils prennent un avion, ils prêchent les mêmes choses, ils font les mêmes prières, il y a 100 fois plus de résultats. Que chacun marche, nous est-il dit, selon la part que le Seigneur lui a faite. Comprenons bien, vous pouvez être un apôtre, un prophète, un pasteur à la bonne place et rien du tout à la mauvaise place. Par exemple, j'ai une autorité pastorale dans l'église de Toulon, dont je suis le pasteur principal. Si j'arrive ici et que je dis au couple pastoral, levez-vous du milieu, je vais prendre l'église en main, non. Ce qu'il faut qu'ils me disent, c'est « va te rhabiller !» Parce que si tu n'as pas d'autorité en tant que pasteur, alléluia, est-ce que vous me suivez? Tu peux avoir une autorité au bon endroit et aucune autorité au mauvais endroit. Puis j'ai déjà assez de soucis avec Toulon. Amen. Donc vous devez être la bonne personne à la bonne place. Une même plante, elle peut s'épanouir, elle peut porter beaucoup de fruits, comme mourir en quelques jours, selon l'endroit où vous avez décidé de la planter. Alors, trouver sa place ça sous-entend souvent en quitter une autre. Ça ne veut pas dire toujours quitter son assemblée, mais souvent quitter une place pour en prendre une autre. Il y a toujours l'abandon de quelque chose avec Dieu pour entrer dans son plan. Il y a toujours un prix à payer. C'est le principe de la perle de grand prix. Celui qui l'a trouvé, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour pouvoir l'acheter. La loi du royaume est qu'on n'acquiert pas la perle de grand prix sans vendre tout ce que l'on possède. Alléluia. Quand on veut comprendre ce que Dieu veut pour notre vie, il faut être prêt à tout perdre. C'est pourquoi parfois, même en tant que serviteur de Dieu, c'est pas trop mal d'avoir été grillé. Parce qu'on n'a plus rien à perdre. Alléluia. Il y a une déstabilisation momentanée à entrer dans la place que Dieu a pour nous. On quitte ses repères pour en trouver d'autres. Élisée, il a dû quitter son champ, ses bœufs, sa famille pour suivre Élie. David partit habiter dans la maison de Saül. Abraham quitta les siens pour partir vers l'inconnu. Où tu vas, Abraham? Je ne sais pas. Dans tous ces modèles bibliques, et bien d'autres, ont accepté d'être déstabilisés par rapport à leur mode de vie de chaque jour pour rentrer dans la première phase de leur ministère. Ils n'y seraient jamais parvenus. Et ils ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont devenus sans ce premier pas qui coûte. Alors n'ayez pas peur d'être déstabilisé. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais, un de tes ennemis principaux, ce sont tes habitudes. Il m'a dit, je te visite hors de tes habitudes. Et c'est marrant, chaque fois que je fais un truc que je n'ai pas l'habitude de faire, je rencontre Dieu sur le chemin. Et je rencontre sa bénédiction. C'est pour ça que je suis à la recherche de choses nouvelles. Et on se réjouit parce que ces séminaires, c'est jamais la même chose. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et c'est bien d'être déstabilisé. Parce que là, on est dépendant de Dieu. Alors, s'il est important de comprendre quel est l'appel que Dieu place sur notre vie, le lieu où nous devons exercer cet appel, il est important aussi de comprendre le temps où nous devons l'exercer. Pour l'exercer au bon moment. Imaginez que depuis que je parle tout à l'heure, vous avez réalisé que votre appel, c'est de nettoyer la moquette. Et de nettoyer cette moquette. Vous avez l'appel juste, vous avez le lieu juste, et puis vous partez pendant que je parle, vous allez chercher l'aspirateur, vous le branchez, vous passez l'aspirateur là. C'est le bon travail, c'est le bon lieu, mais ce n'est pas le bon moment. Ecclésiaste 9, 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Et il ajoute, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Lorsque Dieu met en place les temps et les circonstances dans ta vie, le plus petit peut parvenir au plus haut sommet. Et celui qui a le plus de diplômes, celui qui est le plus doué, s'il n'y a pas le bon temps et les bonnes circonstances qui se mettent en place dans sa vie, il n'arrivera jamais à rien. Amen. Moi, il y a 30 ans, je me suis trouvé sur le port de Toulon, et pendant une demi-heure, j'étais là, et j'ai vu passer une blonde anglaise, alléluia, avec qui j'ai fait connaissance, et 4 enfants après. Et c'est ce que dit ce verset. Il nous dit, ce n'est pas celui qui court, ce n'est point à ceux qui sont agiles, à ceux qui sont vaillants. Le verset ne veut pas nous dire que ce n'est pas important d'avoir de la vaillance, d'être agile, d'être instruit. Bien sûr que c'est bien, c'est important. Mais si tu places ta confiance dans ces choses-là, ce ne sont pas ces choses qui vont t'amener dans ta destinée. Si Dieu ne met pas en place les temps et les circonstances. Combien nous avons de célibataires ici? Ouais, les célibataires. Ah, imaginez que vous avez l'habitude de rentrer chez vous en prenant l'ascenseur, et ce soir, sans savoir pourquoi, vous prenez l'escalier de service. Et là, dans l'escalier de service, pendant 3 secondes, vous croisez votre futur mari et votre future femme. Qu'est-ce que votre vaillance, votre instruction a à voir avec cela? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il aura suffi à Dieu de 3 secondes pour changer toute la suite de votre vie. Donc, mes amis, plaçons notre confiance dans le Seigneur. Alléluia. Ne plaçons pas notre confiance dans notre pédigré. Alléluia. Plus vous avez de diplômes, mieux c'est, on est bien d'accord. Plus vous avez de la vaillance, plus vous êtes en forme physique, vous faites du sport, super, c'est très bien. Mais ne placez pas votre confiance dans ces choses-là, Car si Dieu ne met pas en place les temps, les circonstances, le plus doué n'arrivera jamais à rien. Quand on est dans le temps de Dieu, on rencontre aussi les circonstances mises en place par Dieu pour changer notre vie et celle des autres à travers nous. Et Jésus, il a reproché à Israël de n'avoir pas su reconnaître le temps de sa visitation, ce qui devait causer sa ruine. Si nous voulons servir Dieu, nous avons intérêt à reconnaître les temps de ses visitations. Ecclésiaste 8:5, celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Seigneur, nous voulons toute ta sagesse pour comprendre tes voies. Alléluia. Ce qui est important, ce n'est pas d'être l'autre. Ce qui est important, ce n'est pas de jouer de la guitare. Si Dieu dit « casse la guitare et fais autre chose », on la casse et on fait autre chose. Ce qui est important, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Et puis, peut-être que ce que Dieu nous a demandé hier, c'était bon pour hier, et puis c'est plus bon pour aujourd'hui. Amen. À Toulon, le Seigneur m'a donné un ordre, c'est de démonter tout ce qu'on a fait, tout le ministère, toute l'Église, et puis de tout remonter. Amen. Mais c'est dur de tout démonter, puis de tout remonter. Bon, l'idée n'est pas de démonter pour laisser démonter, on est bien d'accord. Mais quand on démonte, on a l'impression qu'on fait marche arrière. Et les gens commencent à vous regarder en vous disant, oh, ben vous avez fermé l'Église, oh, vous n'êtes plus dans le ministère, oh, vous ne faites plus, parce qu'ils vous avaient identifié à une forme. Mais ma destinée, elle ne doit pas être bâtie sur les formes. Amen. Lorsque les Hébreux étaient dans le désert, ce qui était important pour eux, c'était de bouger avec la nuée. Et Dieu nous appelle à bouger avec la nuée. Et là, j'ai compris pourquoi tant de serviteurs de Dieu, lorsque Dieu leur demande de démonter ce qu'ils avaient mis en place, eh bien, ils n'y arrivent pas et souvent, ils sortent du plan parfait de Dieu. Parce qu'ils ont placé leur identité dans ces choses-là. Et le jour où Dieu demande de les démonter, on a l'impression qu'on n'est plus rien. Eh bien, mon identité, elle n'a pas à être... Elle n'a pas à être ni dans mon ministère, ni dans mes chants, alléluia, ni dans les formes que Dieu m'a demandé d'utiliser hier. Parce que ce qui est bon hier n'est parfois plus bon aujourd'hui. La manne qui vous nourrissait hier, vous tuez le lendemain. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pourquoi Dieu veut que nous soyons rafraîchis de l'onction du jour. Merci Seigneur pour les merveilleux réveils d'hier. Alléluia, merci pour Azusa Street. Mais moi, je ne veux pas revivre Azusa Street. Je veux le réveil d'aujourd'hui. Azusa Street, il y avait tout le bon, il y avait tout le mauvais aussi. Si vous étiez une femme, vous vous maquillez à Azusa Street, on vous prenait automatiquement pour une Jézabel. Hein? Si vous chutiez, il y avait certains enseignements un peu zarbis. Hein? Si vous arrivez de chuter, on disait que vous ne pouviez plus être restauré. Dis donc, ils étaient durs à Azusa Street. Moi, je veux un réveil plus intelligent. Et Daniel, il dit, dans la fin des temps, la connaissance augmentera. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de connaissances, alléluia, par les CD, par les cassettes, par les DVD, on peut s'instruire, on peut, le plus petit au milieu de nous aujourd'hui, peut en savoir plus qu'en connaissait Finet, qu'en connaissait Luther, amen, ou qu'en connaissait les instigateurs du réveil de Jésus à suite. Donc ce qu'il nous faut, ce n'est pas essayer de repartir en arrière pour vivre de ce qu'ils ont vécu, c'est vivre ce que Dieu il a pour nous aujourd'hui. Il y a des formes même d'évangélisation qui étaient merveilleuses il y a 15 ans. On descendait dans les rues avec mon épouse et puis il y avait des résultats, des gens se convertissaient. Aujourd'hui, je ne me vois pas en train de faire la même chose. C'était supérieur. Aujourd'hui, il n'y a plus d'onction. J'ai plus l'onction pour ça. Amen. Pourtant, aujourd'hui, je suis partant pour faire de la télé et aller trouver les gens dans leur canapé avec leur bière là, qui partent en enfer tranquillement tous les soirs. Il ne faut pas rester avec hier. Ce qui est important, c'est l'onction fraîche d'aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur pour l'appel que tu places sur nos vies. Merci Seigneur de nous faire comprendre quel est l'endroit où tu veux que nous exercions. Et quel est le temps aussi. Et je prie qu'à travers ce message, ce soir, vous puissiez être animés du désir de mieux comprendre ce plan de Dieu pour votre vie. Alléluia. Il y a toute une génération qui a péri dans le désert. Et pourquoi? Parce que dans le désert, ils y étaient dans le plan de Dieu. Mais ce qui était hier le plan de Dieu, un jour ils se sont levés, ce n'était plus le plan de Dieu. Le plan de Dieu ce jour-là, c'était de rentrer en Canaan. Donc nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit pour comprendre ce qu'il a pour nous. Et vous savez, lorsqu'il y a des changements de saison dans une église, dans un ministère, dans une famille, ce n'est pas toujours les moments où tout est secoué. Moi, j'ai vu des moments où les chaises étaient renversées de tous les côtés. Moi, j'aime bien ça. Hein. Le Saint-Esprit se manifeste comme ça. Et puis, c'était super. Et puis, il y a eu des moments où c'était très calme. Et le Seigneur me disait, il y a un changement de saison. Ça ne dépendait pas des chaises renversées. Ça dépendait d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et le chrétien charnel, il est toujours à la recherche du sensationnel, vous savez. C'est un chrétien thermomètre. Partout où il va, il prend la température. Oh, il n'y a pas d'onction ici. Nous sommes appelés à être des chrétiens thermostats. Bien, s'il n'y a pas d'onction, on fait quelque chose pour la faire venir. Au lieu de critiquer les autres. Amen. Chrétien thermomètre, ça mène nulle part. Mais chrétien thermostat, on crée la température ambiante. Amen. Au lieu de regarder l'autre, oh, regarde, il ne loue même pas. Et toi, loue alors. Il ne prie pas. Mais toi, prie alors. Amen. Donc il y a une place dans ce monde, dans l'Église, pour chacun de nous. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui, pour chacun de nous. Oh là. Alors on va réessayer. Pour chacun de nous, pour vous, d'accord?
Ah ben, merci.
Ah. Une place où si les combats sont aussi de mise, je ne nie pas ça. La bénédiction, l'onction et les fruits sont concrètement palpables. Cette place, c'est celle qui consiste à être dans son appel, au lieu qu'il faut et au temps qu'il faut. La blonde dont je parlais, c'était elle. Hein? Donc le Seigneur ne veut pas que nous dilapidions ses dons, il veut nous diriger là où il sait qu'ils vont être le plus utile et le plus efficace. Il est temps de se retrouver, je vais terminer, avec les bonnes personnes, bonnes places dans l'armée de Dieu. Trop souvent, les marins se retrouvent au pilotage d'un avion, les fantassins avec des combinaisons d'hommes grenouilles, les bureaucrates sur le front, les combattants accroupis derrière des bureaux où ils périssent à petit feu. On s'étonne alors de ce que les avions s'écrasent au sol, que les bateaux coulent, que ceux qui sont en première ligne fuient en courant, et que dans les bureaux, les paperasses s'entassent. Parfois, on attend l'onction et la bénédiction, souvent sans bouger d'où nous sommes. Et la réalité, il existe une place pour chacun de nous où nous attend notre onction et notre bénédiction. Ça me rappelle un serviteur de Dieu, ça m'avait choqué. Mais je comprends aujourd'hui. Il avait eu une vision de Jésus, et lui qui désirait, parce qu'il le sentait au fond de son cœur, que c'était l'appel de Dieu, rentrer dans un ministère de guérison, eh bien, il ne voyait pas ce ministère de guérison y arriver. Et là, dans cette vision qu'il a eue de Jésus, Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu as l'intention de faire au sujet de ce ministère de guérison? Il a répondu ce qu'on aurait tous répondu, mais Seigneur, j'attends que toi, tu fasses quelque chose. Vous voyez, on peut attendre longtemps comme ça. Moi, je veux comprendre ce que Dieu veut que je fasse. La Bible dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Alléluia. Dieu, il a déjà tout fait il y a 2000 ans en envoyant Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux comprendre par le Saint-Esprit qui est Claude Payan. Qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Parce que je voudrais préciser que c'est aussi important pour comprendre quelle est notre destinée de comprendre ce que nous sommes appelés à faire que ce que nous ne sommes pas appelés à faire. Parce que sinon, ce que nous ne sommes pas appelés à faire, en général, nous prendra le temps qui devrait aller à ce que nous sommes appelés à faire. Est-ce que vous me suivez? Le nombre de choses que j'ai faites et qui étaient bonnes en soi, mais qui n'étaient pas dans le plan de Dieu, et qui me fait perdre du temps par rapport au plan de Dieu, dans lequel je devais rentrer, je crois que chacun de nous, nous nous reconnaissons ici. La Bible dit que Dieu a prévu des œuvres d'avance pour chacun de nous, afin que nous les pratiquions. Mais ça signifie aussi que Dieu ne m'appelle pas simplement à faire des bonnes œuvres. Le principe même de la religion, c'est de faire des bonnes œuvres. Ce que je suis appelé à faire, c'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, les œuvres de Dieu étant les œuvres d'un Dieu bon, sont automatiquement des bonnes œuvres, on est bien d'accord. Mais toutes les bonnes œuvres ne sont pas obligatoirement les bonnes œuvres que Dieu m'a demandé de faire. Donc, je peux me retrouver à faire des bonnes œuvres et me sentir justifié à cause du fait que ce sont en soi de bonnes œuvres, mais pour Dieu, je suis dans la désobéissance, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, et que ces bonnes œuvres-là me prennent le temps qui devrait aller aux œuvres bonnes préparées d'avance. Vous m'avez suivi? Parce que je ne vais pas le répéter, hein. Amen. Donc ce qu'on veut, c'est pas faire de la religion, c'est pas aller. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Non. Même dans une église, souvent on place quelqu'un, il tient pas 15 jours, il faut refaire le travail derrière. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Pourquoi j'ai été ouin? Parce que si je suis pas ouin, lorsque la tempête va venir, je vais pas trouver les forces pour résister, pour surmonter. Parce que c'est par la grâce de Dieu qu'on surmonte. Amen. Quand vous êtes ouin, vous vous riez de choses qui terrorisent d'autres personnes. On vous dira, là-bas, personne n'a eu de résultat, n'y allez pas. Vous, vous allez y aller, vous allez avoir du résultat. Pas parce que vous êtes plus intelligent, mais parce que vous êtes ouin. Amen. Donc, ce qui est important, c'est d'être à la bonne place, en train de faire les bonnes choses au bon moment. Ouh! Et je termine avec ce verset, donc, pour sceller ce message, Ésaïe 56, 5, « Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place. » Dieu, dans sa maison, il a prévu une place pour chacun de nous. Nous n'avons pas besoin d'essayer d'être l'autre, nous n'avons pas besoin de rentrer dans la sphère d'autorité de l'autre, parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. Nous n'avons pas besoin d'être en compétition avec quelqu'un, parce que ce qui nous importe, c'est d'être dans notre sillon. Et j'aime bien ce passage de Joël, je crois, oui, qui parle de l'armée qui est en route, et nous est dit, chacun marche dans son rang, sans aller à droite et à gauche. Alléluia. Chacun s'occupe de ce que Dieu lui a demandé de faire. Pas plus, pas moins. Amen. Plus, c'est un excès de spiritualité qui nous crée beaucoup de problèmes. Souvent, dans l'église, on n'a pas toujours des problèmes avec les gens mal intentionnés, mais avec les gens qui veulent trop en faire, parfois. Amen. Les gens veulent parfois tellement en faire que quand ils veulent vous aider, ils veulent prendre votre place. Il faut trouver l'équilibre. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains quelques instants ?